Radio Luminol avec Alain Dumas est présenté par Accommodation Chaloux. La bière au meilleur prix dans le plus gros des réfrigérateurs. Radio
Luminol. Avec Alain Dumas, un regard coloré sur l'actualité.
Allô tout le monde, bienvenue à Radio Luminol. Oui, vous êtes à Radio Luminol parce que quand on voit le décor de Rémi actuellement, on se demande si on n'est pas dans la petite vie. Mais non, il n'a pas mis son bonnet de maman. Alors, Rémi Tremblay, bien sûr, et Frédéric Desjardins sont avec moi cette semaine pour un regard coloré sur les sujets d'actualité qui laissent des traces. C'est ça le Luminol. Alors nous, on est là pour aller chercher ce qui éclaire le plus dans l'actualité. D'abord, bien sûr, quoi faire? La situation est vraiment, disons-le, catastrophique. Comment aider les hôpitaux? Y en a-t-il des solutions? Le nouveau ministre dit qu'il va faire mieux que les autres. Ça fait des années que c'est la même chose. Est-ce qu'on va nous demander de faire comme Hydro-Québec, de consommer moins les hôpitaux et les urgences? On ne sait pas. On en parle et on va en rire aussi. On va trouver une façon. Deuxième sujet, également très fort aussi, c'est le cinéma québécois. Radio-Canada ayant décidé de ne pas diffuser ou de pas présenter de gala pour le cinéma, ben ça amène une question qui est encore plus fondamentale. On s'interroge sur la réelle valeur de notre cinéma, l'importance culturelle du cinéma québécois. Bref, on se pose la question et on tente d'en rigoler, ce qui est pas évident, mais on a trouvé une façon. Novembre, le mois des morts. Ouais. La mort, ça évoque quoi pour vous? Oh, sujet qui peut paraître lourd, pas évident d'en rire, mais on a trouvé des façons de le faire. Mais avant de mourir, s'il y a une chose que Fred va goûter, c'est une bière. Mais laquelle, Sam? C'est toi qui nous le dis.
Salut les gars, aujourd'hui je vous parle de la microbrasserie Sabras. Toutes des bières à base de miel. Aujourd'hui ça va être la blanche au miel. Donc le miel est vraiment bien dosé, c'est pas trop sucré, c'est vraiment bon. Bonne déguste!
Alors, Fred va goûter à ça un petit peu plus tard, comme c'est l'habitude. Maintenant, premier sujet, le réseau de la santé. Écoutez, c'est devenu catastrophique, là. Je veux dire, le réseau est incapable de bien prendre soin des Québécois. Et puis, en plus, les plus vulnérables. Donc, il y a les urgences qui sont incapables de répondre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos institutions? Et c'est drôle parce que je repensais, quand je pense à la situation des hôpitaux, je pensais à ce qui a été dit il y a pas très longtemps. Enfin, c'est une idée qui revient régulièrement dans l'actualité, qui était là en campagne électorale aussi, par rapport à l'hydroélectricité. Hein, je veux dire, Pierre Fitzgibbon a dit qu'Hydro-Québec songeait à augmenter le tarif. Et là, on voit les gros titres, hein. Je voyais dans le journal, les maisons avec une piscine et un spa, je me sentais concerné, vont devoir payer plus. C'est comme par exemple, quand t'es en panne d'électricité, je veux dire quand t'as une grosse panne, et là on dit ben consommez moins, et là on se dit ça y est, c'est l'urgence, hein, tu fais comme OK, là nous on consommera pas trop, on est conscient de ça. Mais quand il n'y a pas ce sentiment visible d'urgence, comment faire que moi, qu'un spa et une piscine, je vais décider de consommer moins alors que dans les faits, tu te dis. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais tu te dis, ben, Caroline, je veux dire, peut-être que moi, je ferme mes lumières le jour. Alors, qu'est-ce qui fait que ça. Moi, je serais obligé? Tu sais, c'est
du bien économiser ailleurs, en fait, là. Tu peux faire ton effort ailleurs, peut-être. Tout dépendant tes besoins, ce que toi t'aimes, là, aussi.
Exact. Ça devient difficile. Bref. Ouais. On est dans cet ordre de considération. Est-ce que pour la santé, on peut pas faire des efforts en allant moins à l'hôpital? Je me pose des questions, mais toi, Fred, tu t'es dit que nos institutions gouvernemental, ben c'est un constat d'échec sur toute la ligne, dans toutes les sphères.
Ben oui, j'ai bien aimé l'article que tu nous as envoyé, là, dans lequel il parlait du contrat social qui est brisé, finalement.
Exact.
Le gouvernement, il livre plus, finalement, là, les meilleurs services publics possibles, hein, que ce soit dans l'éducation, la santé. Bon, l'éducation, c'est drôle parce qu'il y a quand même beaucoup de parallèles, en tant qu'enseignant, beaucoup de parallèles à faire entre l'éducation et la santé, là. Ce qui manque, hein, évidemment, le personnel est de moins en moins là. Mais je m'étendrai pas sur le côté de l'éducation, je vais aller plutôt effectivement du côté des hôpitaux. Je me demandais à quel point, justement, par exemple, le vieillissement de la population, ben évidemment, ça aide pas, là. Je sais pas, il y a de plus en plus de vieux, donc de plus en plus de personnes âgées dans les hôpitaux, donc je sais pas si ce côté-là, là, c'est quelque chose qui peut justement faire une pression énorme sur le système de la santé. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
Ben, c'est ce que j'en pense. À partir du moment où tu poses la question, tu m'amènes à dire, ben, faudrait qu'il y en ait moins. Alors, c'est sûr que je trouve que c'est comme difficile à cadrer, là. Je sais pas, faudrait que tu précises. Ouais. Parce que ton idée serait pas très populaire au niveau de la masse.
Ben, je sais très bien, mais comme en éducation, ben, il manque beaucoup de personnel soignant. Donc, évidemment, s'il y a une pression énorme du côté des personnes âgées, ça aide pas non plus, là. Il va falloir retourner. Ben, en fait, je sais pas, tu parlais tantôt de soigner soi-même. Hein? Ils ont parlé des auto-soins, donc prendre soin de soi, soi-même. Par exemple, je me casse le bras, pas besoin d'aller à l'hôpital, là, je mets deux planches, je me tape ça comme il faut, j'attends que ça passe. Donc, ça peut être une solution. Là,
ça peut être une solution. Oui, mais vas-y Fred, oui.
Oui. Donc, évidemment, t'sais, pour pas engorger l'urgence, tu as dit, il y a beaucoup de gens qui se ramassent là pour rien, là, peut-être, ouais. Des fois, là, l'auto-soin, des fois, il y a des lignes aussi là qu'on peut appeler, hein, donc pour avoir là, des...
Le 811.
Le 811, effectivement, il en parlait, effectivement, donc... Du côté là, on n'est pas sorti du bois de ce côté-là, je pense. Là,
Ouais. Puis dans cet ordre-là, Fred aussi, il y a aussi les gens, parce que moi j'ai lu récemment pour préparer le podcast que les soins à domicile, je veux dire, on devrait peut-être investir davantage. Il y a une infirmière qui a donné son commentaire dans la presse qui disait. Elle dit, moi, elle dit, j'ai fait des soins à domicile pendant 17 ans. Elle a pris sa retraite il y a quelques années. Elle dit, on donnait jusqu'à 17 heures par jour de soins, par semaine, c'est-à-dire par soins à domicile. Ce qui évitait, elle dit, on a évité plein de gens qui se présentent à l'urgence. Mais elle dit, un nouveau gouvernement est arrivé. Et là, oups, ça y est, on a mis les listes d'attente et c'est redevenu un problème.
Ben, même quand j'étais jeune, je sais pas si, moi, j'avais un médecin. Mon médecin, il venait chez nous, là, quand j'étais jeune. Là,
donc,
qui n'existe plus du tout. C'est bureaucratisé à la mort. Là,
ça, t'as raison, Fred, parce que c'est vrai, quand j'étais tout petit, il y avait des médecins qui se déplaçaient. Je veux dire, puis tu parles des personnes âgées. Je veux dire, moi, ma belle-mère est en résidence. Il y a une infirmière qui va la voir puis pour faire ses pansements, des choses comme ça. Je veux dire, écoute, c'en est une solution intéressante maintenant. Rémi, toi, tu réalises que bon, un système de santé universel là, comme ça, ça suffit pas parce que t'en es un exemple, tu vas nous expliquer que tu finis par être forcé de payer quand même.
Oui, parce que la bureaucratie est rendue. En tout cas, je sais pas trop. Il y a quelque chose qui marche pas là quelque part. Il m'est arrivé justement, c'est un hasard, mais cette semaine, ça fait déjà 4 mois que j'attends pour un examen. Finalement, la semaine passée, il y a une machine qui m'appelle. C'est une machine, tu sais, OK?
Ben oui.
Ah, c'est mon rendez-vous, ta-ta-ta. Veuillez accepter, j'accepte. Là, je me présente mardi matin à l'hôpital pour mon examen. Mm-hmm. Là, elle me dit, la femme au réception, elle dit, c'est tel médecin qui a prescrit votre... C'est parce que ce médecin-là, je le connais pas, moi, là. En tout cas, ça commence comme ça. Là,
ouais, ça va bien.
Un peu bizarre. Fait qu'elle dit, OK, médecin de famille, parfait, nanana. Fait qu'elle dit, va tel corridor, mets ta fiche dans une petite boîte, là. Ouais. Puis là, OK, j'arrive là, je mets ça là. Je trouve ça bizarre, l'endroit où je suis, tu sais, finalement. Puis, il y a une infirmière qui passe, j'ai dit, c'est-tu cet endroit-là pour tel examen? Elle dit, non. Elle dit, là, c'est pas ça partout. Hein? Là, je regarde ma feuille, elle dit, oh oui, t'es à la bonne place pour cet examen. Un peu. Fait que là, finalement, je suis pas d'avoir une imagerie. Là, elle me dit que c'est pour une piqûre dans le bas du dos pour soulager les maux de dos. J'ai fait, attends un peu, j'ai pas de maux de dos, moi, là, ça marche pas.
Ouais.
Ça fait que ça pour dire que je me suis rendu là pour rien, pour une erreur de je sais pas quoi. Puis je me suis rendu, finalement, je suis revenu chez nous. Puis là, j'ai dit, là, ça fait 4 mois que j'attends, je suis tanné, je m'en vais au privé. Fait que j'ai décidé d'aller au privé parce que là, je vais avoir des résultats. Fait que finalement, on paye tout le temps, que ce soit puis la bureaucratie ou quoi que ce soit. Fait que j'ai fait, je me suis défoulé. Fait que j'ai fait ma petite pub sur qu'on paye pour tout.
On écoute ça avec plaisir. Mon petit.
Ce que je fais pour les boss, payer. Je mets les mains dans mes poches, payer. Et je sens qu'on me crosse, payer. J'ai le goût de pleurer. Le système de santé, payer. Et l'électricité, payer. Et je vais tout flamber, tout ce que j'ai mis tant d'années à me ramasser. Payer ma chirurgie, qui pressait en hostie, pour que la bureaucratie fasse des congrès aux îles Fidji. Réhypothéquer ma maison pour contrer l'inflation, pendant que le gouvernement se vote des augmentations. Il y a quelque chose qui cloche, payer. On frise la catastrophe, payer. J'suis pas la fée Carabosse, payer. J'ai le goût de pleurer. Le système de santé, payer. Et l'électricité, payer. Et je vais tout flamber, tout ce que j'ai mis tant d'années à me ramasser, faut payer.
Ouais, payer. C'est le système est fait que on essaie d'aider les autres. Moi je suis pour un système comme on a, parce que s'il fallait être aux États-Unis, ce serait atroce. Maintenant, ce que tu dis, Rémi, c'est que en plus de payer, parce qu'on paye le système de santé, on se retrouve avec et à cause, je pense que ton exemple est clair, d'une problématique de congestion et de bureaucratie à outrance, que, je veux dire, on finit par faire des erreurs tellement graves que c'est encore nous autres qui payent.
Bon, oui, puis, tu sais, regarde Alain, je veux juste continuer mon petite affaire, je veux pas prendre trop de temps, mais quand j'ai appelé au privé, là, j'ai appelé, la fille m'a répondu, c'est pas là, votre moment d'attente est involontaire, là, c'était direct. Non. Elle m'a appelé, elle m'a répondu, elle dit, allez sur le site, envoyez votre prescription par courriel. J'ai envoyé ma prescription par courriel. 4 minutes après, je vous jure, je reçois une plage horaire. Est-ce que tu peux venir à la fin? Je vais mardi prochain. Hey, c'est parce que là, si le privé est capable de faire ça, le public est capable de faire ce qu'on veut.
Mais moi, c'est ça qui me fait peur un petit peu. T'sais, je pense qu'un peu de privé, ça serait bon. Mais en même temps, tu sais, si, bon, t'as vu à quel point c'est excellent du côté du privé, mais là, si les médecins s'en vont tous du côté du privé,
est-ce que... Non, la question n'est pas là. C'est pas ce que Rémi dit, Fred. On est d'accord. Mais ouais, c'est pas ça. C'est qu'il dit, si on est capable d'avoir une organisation aussi bien huilée, je veux dire, elle devrait un peu moins manquer d'huile. On est d'un extrême à l'autre.
Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, quand même, le public va peut-être aller de moins en moins bien, finalement. C'est juste ça que je veux dire. Si on met de plus en plus de privé, peut-être les médecins vont aller...
Oui, non, c'est pas de mettre du privé, je réitère. C'est de faire que le système public soit moins lourd.
Exact. OK, mais comment tu fais?
Il peut faire comme le privé.
Exact. C'est peut-être d'avoir...
une machine qui marche, puis quelqu'un qui répond au téléphone, puis qui dit OK.
Que ce soit pas une machine qui t'appelle, ça peut être une façon
de... Regarde, Fred, on paye quasiment 50% de tes impôts vont à la santé. C'est quelque chose qui marche pas, là, tu sais.
Ben, je sais, il y a du dégraissage à faire quelque part, probablement.
Exact.
Et on dirait que c'est comme... Dès que ça devient public, c'est impossible. Est-ce que dans l'histoire du Québec, c'est déjà arrivé dans une société d'État qu'on dégraisse?
Ben, écoute, c'est drôle que tu dis ça. Mais en même temps, je veux dire, c'est comme quand on parle de la SAQ, on parle de tout. Quand on dit que quelque chose a pas de compétition, ça devient dur en maudit d'être performant parce qu'on sent pas le challenge. Ouais. Là, le challenge, il est dans le public. C'est pas qu'on veut qu'il y ait plus de privé. Mais on veut être capable de sentir que le système, il roule mieux. Je veux dire, l'infirmière dont je vous parle des soins de santé, je pense que c'est quand c'est Barrette qui est arrivé que ça a fait comme « oups, ça a tout changé ». C'est parce que le problème étant aussi, c'est que on change toujours de capitaine pour le bateau. Je veux dire, il veut amener son équipe, sa façon de faire. C'est comme une équipe de hockey, ça. Je veux dire, à un moment donné, quand on va en avoir un bon principe, il faudrait être capable de le garder et de valoriser ce qu'il est. Jusqu'à présent, on n'a pas grand-chose à valoriser, donc on pourrait facilement améliorer le système public sans qu'il devienne un système privé. En tout cas, ça, c'est à souhaiter. Ouais. Mais tu sais, moi j'ai quelque chose d'un peu plus fou, hein, et par chance, c'est un peu le but de... Oh! C'est un peu le but de Radio Luminol. Moi, je me suis dit, dans le fond, là, le best, là, tu sais... Pourquoi pas aller dans le sens de... Moi, je pense que c'est la méga solution pour désengorger les hôpitaux et les urgences. On ferait appel à des tutoriels sur YouTube. Oui, des tutoriels qui vont amener les gens. C'est pas de soigner soi-même, mais c'est parce qu'on n'a peut-être pas des connaissances, mais il y a des tuteurs sur YouTube qui savent comment vous soigner. Et j'en ai un exemple ici.
Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Monsieur Tuto, bienvenue sur ma chaîne YouTube, cette chaîne où on vous montre que tout se répare. La semaine dernière, on vous a montré comment réparer un lave-linge, merci à tous ceux qui ont mis un pouce bleu. Alors maintenant, cette semaine, je vous montre comment faire l'ablation d'un rein. Alors, l'ablation d'un rein, d'abord ça va vous prendre un scalpel, juste ici, et un peu de fil à recoudre. Bon, évidemment, quelques serviettes pour éponger, car à certains moments, bien sûr, le sang peut pisser, mais rien de très grave, en tout cas, pas pour vous. Alors voilà, la première chose, en amont, vous aurez fait un peu d'espace pour que la personne puisse s'allonger, et ensuite, après bien avoir visualisé où se trouve le rein, eh ben, vous insérez soigneusement votre scalpel afin de pratiquer l'incision. Bon, évidemment, il y a de petits muscles qui sont là dans la région, mais le scalpel se ferait un chemin, je vous prie de me croire. Alors voilà, et un coup que vous allez apercevoir le rein, vous le retirez et hop, ce soir on mange des oignons. Voilà. Alors, et ensuite vous refermez le tout par des points de suture, tel que je l'expliquais dans mon tuto. Je vais mettre l'adresse juste en bas, ici, pour les points de suture. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé, eh bien, le pouce bleu, bien sûr. Alors voilà, je compte sur vous. À la prochaine.
Hey, je pense que Monsieur Tuto, ça a l'air à faire fureur. Yes. En tout cas, Rémi, avec ton gant bleu, c'est clair que ça a l'air à faire ton affaire. En plus que t'as l'air d'une chambre d'hôpital cette semaine. Alors, c'est tout à fait dans le contexte. On va maintenant parler de quelque chose qui est malade également aussi. Malade, je pense qu'on peut en parler. C'est le cinéma québécois. Malade, en fait, du fait que, depuis que Radio-Canada a dit que, bon, il ne présenterait pas le gala du cinéma, bon, il y a Rémi Girard qui s'est mis à gueuler en disant que ça avait pas de sens, et puis tout le monde s'est plaint. C'est triste comme situation. Maintenant, on va quand même comprendre une affaire. C'est que le cinéma québécois, comme tout le cinéma, en quelque part, depuis la pandémie, ben, le cinéma québécois, ça a été un fait. Je veux dire, le public était plus là. Donc, les salles de cinéma ont été désertées. Alors, c'est sûr que ça aurait pu être une aide d'avoir un gala pour refaire une place au cinéma dans les chaumières à la télévision. Mais là où il y a aussi un problème, c'est que le cinéma, en termes d'attirer le monde, c'est qu'il faudrait quasiment qu'il paie pour avoir une place à la télévision, parce que les rapports de comparaison sont immenses. Je veux dire, pour une émission banale à la télévision, il va y avoir plein de gens, puis quand il y a un gala sur le cinéma, il y a peu de monde qui vont écouter. Bon, la question étant maintenant, est-ce que la société d'État, ou Télé-Québec, par exemple, devrait pas avoir un mandat de, quand même s'il n'y a pas de cote d'écoute, d'avoir quand même une place pour le cinéma? Ça, c'est toute la grosse question qui a été posée. Puis je vais répondre à comment est-ce qu'il s'appelle, donc, Dumas, dans la presse, Hugo Dumas, qui disait, ouais, mais qui c'est qui en veut des galas, parce que ça a l'air que le monde du cinéma intervient trop auprès des dirigeants de Radio-Canada, puis les force à faire X, Y, Z dans le cadre des galas. Ça, par contre, je dirais une chose, la notion des galas, c'est pas juste le gala du cinéma, parce que je me rappelle d'être allé dans plusieurs galas dans ma vie, et puis d'être allé, entre autres, avec Gilles et Michel à l'époque du Zoo de la Jungle. On est allé dans un gala de la disque, et au moment où on est en nomination, ben on réalise que les caméras sont bloquées sur toujours le même monde, les mêmes artistes qui sont là. Alors, de la magouille ou de la façon d'orchestrer des galas, c'est pas juste le gala du cinéma. Non, je pense que la question est beaucoup plus large, et elle est une question de notre culture. Ouais. Est-ce que on a encore capacité pour concurrencer avec tout ce qu'il y a dans le monde, d'avoir notre place? Fred, c'est un peu ton point de vue, toi.
Ah, vous allez dire, les gars, encore, Fred, t'es bien négatif, mais qu'est-ce que tu veux? on revient ici à l'identité hein, québécoise qui disparaît, là, tranquillement, pas vite. Donc, on a beau essayer de se convaincre que c'est pas le cas, ben, c'est la réalité, dans le fond, hein, le cinéma. Donc, ça intéresse. Moi, je suis enseignant, je sais pas pour toi, Rémi, mais quand je parle à mes étudiants de cinéma québécois, de chansons québécoises, là, c'est des gros points d'interrogation. Les autres, ils sont scotchés sur Netflix, Amazon, Spotify, de ce monde. Donc, toute la culture québécoise, c'est quelque chose là, d'évacuer pour eux autres. Là. Est-ce qu'on a un rôle à... Moi, j'essaie, hein, je fais écouter des chansons, tout ça, mais ça les intéresse pas. Là, c'est, ça, pour eux autres, ça a l'air ringard. Là. Jean Leloup, Beau Dommage, Harmonium...
Tout ça, c'est ringard pour eux.
Ouais, même les trois accords, très peu connaissent. Là. Quand on essaie de les intéresser à notre culture, là, ils trouvent ça vraiment, vraiment là, dépassé pour eux autres. Là. C'est triste à dire, mais je vois pas comment on peut revenir là à intéresser. Il y a une question de budget aussi, peut-être, je sais pas. Hein, quand tu parlais de films, là, les films américains, c'est des budgets extraordinaires. Là, nous autres, c'est... Puis nos artisans réussissent à faire des affaires vraiment tripantes là, avec peu de moyens, ce qui est...
Peut-être, Fred, mais d'un autre côté, je veux dire, je repense toujours à ce film qui s'appelait Duel, que Spielberg avait fait dans ses débuts de carrière, qui était un film banal et rien, mais qui avait réussi à attirer. Je crois pas que c'est une question de production, c'est une question de visibilité, autant pour le cinéma que pour la musique. Je disais cette semaine que, sur Spotify, la façon que ça fonctionne, c'est que est noyée la musique québécoise, que c'est à partir du moment où les algorithmes font que, si tu décides d'être sur Spotify, puis tu dis que t'aimes une musique de, je sais pas, de Jean Leloup, on va aller t'associer d'autres noms avec ça. Mais je veux dire, tous ceux qui vont écouter plus l'autre nom vont générer plus sur ton Spotify. Fait que tu sais, dans le fond, on est noyé. C'est vraiment... Et puis tu fais préférence. Ils ont fait l'enquête, là. Ils ont dit au cégep de Jonquière en arts et technologie des médias. Ouais. Ils ont demandé s'ils connaissaient des artistes québécois. Et Véronique Cloutier, ils disaient, oh, ils la connaissent même pas. Je veux dire, à un moment donné, là, si...
Ce qui est dommage, moi, par exemple, là, les spectacles de fin d'année, là, où les étudiants chantent, là, ce n'est que des hits anglophones, là. Il y a pas de chansons francophones. C'est très rare, là, à moins que ça soit imposé. Là.
Effectivement, quand regarde, on élargit le débat, mais moi, j'ai pendant la pandémie, j'ai commis un petit EP de jazz avec... c'est juste du jazz, puis on est du Québec. Là, on a fait des tunes en français, puis des tunes en anglais, puis on a lancé ça pour le fun. Puis, juste pour clore, aller à la discussion rapide, on a reçu des ratings qu'on tourne en Grèce, en Italie, tourne un peu, tu sais, mais au Québec, zéro bonne barre. Zéro. On n'est pas connu du tout. C'est comme, fait que là, je sais que c'est du jazz, c'est juste le fun, mais tu sais, c'est pas normal que... Je suis un no-name, là, c'est correct, là, c'est pas ça que je veux dire que tu tournes en Italie, mais tu tournes pas au Québec. Mais voyons, c'est quoi cette affaire-là?
Et c'est pourquoi des gens au Québec qui ont réussi, en quelque part, se sont dit, on est un village gaulois. Si en quelque part on veut que notre culture, en fait non, nos idées à la base, partons simplement de nos idées, elles aient du rayonnement, il faut jouer large. Et puis c'est un peu ça l'affaire. Il faut trouver une façon qu'on puisse être vu, entendu. Parce que nos œuvres, elles sont aimées, mais elles ne sont pas vues. Je veux dire, c'est comme à l'épicerie, quand il y a le gars qui fait son étalage, puis dit, moi, mettre mon produit en avant de l'autre, eh ben là... On est dans l'épicerie du monde, dans la culture, et nos produits sont à l'arrière-fond et on ne les voit pas.
Mais c'était pas bon, là. Il y a des films québécois qui ont été repris aux États-Unis puis tout, là.
Exact. C'est sûrement bon. Mais, moi, mon point de vue, les gars, c'est que, vous savez, durant la pandémie, là, on s'est dit, on peut pas aller ailleurs. Donc, on s'est dit, on va visiter le Québec. Et on s'est dit, wow, hey, c'est donc ben beau, tel coin, c'est notre... Mais la culture, elle, en a pas eu cette ouverture-là. Parce que pendant la pandémie, les Netflix, puis toutes ces plateaux, ces plateformes-là qui sont là, sont venus encore noyer davantage ce que l'on était sur le plan culturel. Mais là, moi, je me suis dit, parce que je cherche toujours des solutions, comprenez-vous? Ben, moi, sérieux, je me demandais, il y a de trouver des solutions, tu sais. Et là, je me suis dit, si on faisait des scénarios de films vraiment reliés à la masse, pour attirer le plus de monde. OK, bon, par exemple, là, j'ai un concept, OK? C'est un film québécois, OK? Le film raconterait l'histoire d'une fille de campagne qui participe à un concours de chant, OK? Là, la fille, elle vient d'un milieu pauvre, puis elle va tenter d'attendrir les cœurs. Et le film s'appellerait « Star Academy fait son cinéma ». Puis dans le rôle de la jeune fille, qui est pas connue pantoute, ce serait le rôle principal, ce serait Guylaine Tremblay. Puis un des juges, là, ce serait Rémi Girard. Hein? Ça, c'est vraiment original, ça pognerait. Ou encore, OK, on reprend une recette gagnante. Savez-vous quelle a été la période la plus prospère au cinéma québécois? C'est les années 60-70, avec les films de fesses. Oui, les spectateurs vivaient une certaine libération d'aller voir ces films-là, libérés face au clergé, face aux dictats de production hollywoodienne. Hein, faut quand même savoir qu'on a été étouffés par ça. On fait un parallèle avec aujourd'hui, avec les Netflix. Bon, et en 70, deux femmes en or, ce film a attiré, savez-vous combien de monde, les gars? 2 millions. De spectateurs. 2 millions. Wow. 2 millions, OK? C'est officiel. Et il y a eu ensuite La Pomme, la queue et les pépins, et plein de titres comme ça qui attiraient.
C'est sérieux, là?
Oui, je vous jure. La Pomme, la queue et les pépins.
On va aller chercher, voir.
Oui, allez fouiller, vous allez le voir. Maintenant, moi, j'ai pensé à, justement, me servir de cette espèce de stratégie des années 60-70 en faisant un film qui va titiller un peu, OK? Donc, c'est un film québécois, ça va pogner là, énormément. Ça va être partout, ça. Alors, ce serait, je vous explique le scénario, OK? Prenez des notes, là, les gens qui sont en cinéma. Donc, c'est l'histoire d'une fille de campagne qui est pauvre, qui est pas riche, et elle cohabite avec d'autres célibataires. Et là, ils sont sur une île paradisiaque. Ce serait une forme de ciné-réalité dont le but est de former un couple, OK? Ce sont des jeunes célibataires pas connus pantoute. Alors, on connaît pas les acteurs, sauf le couple qui va gagner. Et donc, la fille serait Guylaine Tremblay et le gars serait Rémi Girard. Donc, ouais, c'est à peu près les idées que j'ai pensées pour sortir enfin notre cinéma et qu'il soit vu par le maximum des gens. Mais une chance, Rémi, t'arrives avec une autre solution si la mienne marche pas, là. Et toi, tu dis qu'il faut défendre notre culture de façon plus sérieuse, là.
Ben, un peu, oui, je parle. Puis j'ai fait une analogie beaucoup avec la musique parce qu'on est comme là-dedans au bout. Puis, tu sais, tu parlais tantôt des galas. Puis, tu sais, des galas, là, faut que tu t'inscrives au gala. Faut que tu payes pour aller dans le gala. Tu sais, le monde qui ont lu Félix, puis tout, ben, parfait, là. Mais tu sais, moi, il faut qu'ils ont payé pour aller là. Fait que ça, c'est comme une industrie, ça aussi.
Et c'est une industrie, c'est une... Oui, c'est ça. C'est de la pub déguisée. Exact. Excusez-moi, ouais,
mais exactement, c'est ça. Mais c'est ça. Je me rappelle, en tout cas. Puis, finalement, moi, j'ai fait une toune qui... C'est sûr que... Qu'est-ce qui se passe avec le cinéma québécois? C'est un peu plate. Je trouve ça plate. La culture, en général, je trouve ça plate.
Ouais.
Mais j'ai fait exactement ce que Fred a dit tantôt. Il sait pas, mais j'ai pris une toune américaine.
Ah bon,
parce que là, ça poigne. Ben oui, j'ai pris une toune de Lady Gaga, parce que ça va passer bien mieux. Ah, pour faire qu'est-ce qui se passe avec notre cinéma québécois. On peut écouter ça à l'instant.
Merveilleux.
Au cinéma québécois, même Radio-Canada ne le supporte pas. Ra, ra, qu'est-ce que vous faites là? Au cinéma québécois, ça se passerait pas comme ça si c'était canadien. L'administration de Québec Cinéma est en maudit après Radio-Canada. C'est une guerre à mort. Mort, 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 c'est une guerre. Encourageons le cinéma québécois, pas juste des séries mais des américains. C'est un combat, le cinéma c'est un combat. Après tout ce temps avec le cinéma et avec tous ces beaux résultats, et oui, un peuple qui n'a plus de culture, il va s'éteindre, oui, je vous.
Hey yo, what's up everybody, ici c'est DJ Ray Ray, directement de MTL, Nami. Quand je suis dans la région de Québec, je suis tuned in au 96.9 Lévis.
Lesalons.com.
L'alternative radio.
Ouais, j'aime bien ce parallèle-là, Rémi, de prendre quelque chose d'international et de dire on le met en français. Bon, évidemment, on en profite aussi pour dire ce qu'on pense, avoir un jugement critique. Mais ça me fait sourire parce que je me dis, c'est un peu ce que... On a fait dans le zoo et à la jungle longtemps, on prenait des hits, on faisait des zoo box et on disait, ça y est, on reprend. Et ça pognait. Ça pognait. C'est-à-dire que la question étant, est-ce que c'est vraiment notre langue ou le support ou bedon, et puis c'est beaucoup ça encore, ça revient à dire que comme c'est en masse vu et écouté, nos oreilles accrochent. Le beat, il pourrait être écrit par Fred Saint-Gelais ou n'importe quel Québécois qui va faire de la musique, mais... Il n'y a pas eu une vue aussi évidente, il n'y a pas eu une reconnaissance aussi claire à l'oreille, donc on accroche moins. C'est ça que ça veut dire. Bon, là, il y a une affaire à laquelle on accroche, on parlera pas de nos oreilles, mais notre gorgoton, Fred, c'est le moment de goûter cette fameuse bière.
Oui, j'avais hâte de vous en parler. Hein. C'est une bière au miel, en fait. Donc, ça brasse à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous voyez, la canette, elle ressemble à... À quoi?
Ah, une abeille.
Une abeille, effectivement. Exact. Donc, c'est vraiment du miel de trèfle, 25% de miel dedans.
Ah, wow.
Quand Sam en a parlé, je lui ai dit, ouf, pas sûr. Ben, j'avais goûté souvent des bières de miel, puis je trouvais que c'était trop sucré. Je trouvais pas ça bon. Il m'a dit, non, goûte celle-là, tu vois, elle est vraiment, vraiment très bonne. Légèrement sucrée. Puis effectivement, c'est le cas. Vraiment très, très bonne. 5%. Donc, vous voyez,
5% d'alcool et même avec une importance de miel de même, elle est pas trop sucrée.
Oui, effectivement, c'est ça. Bon? Donc, petite odeur de miel, là. Très, très rafraîchissante, c'est ça. Vraiment, là, ça se boit comme du bonbon, je vous le dis, là.
Mais là, OK. Faut être intriguant parce qu'on a le goût de dire. Attends, on a le goût de tester, là. Il arrive un moment donné dans nos podcasts qu'on va en avoir chacun.
Ben oui, c'est ce qu'il faut. Ben oui, j'espère.
Qu'on soit continue à travailler comme des abeilles, comme ça, vraiment, on va avoir notre ruche à nous autres.
Effectivement, je vous suggère de goûter à ça. C'est vraiment très bon. Petit goût de miel, pas sucré, légèrement sucré. OK. Mais ça se boit, là, vraiment. Tu peux en prendre deux, trois, puis il n'y aura pas de problème, là.
OK.
Tandis que d'habitude, là, après une, là, c'est moins. C'est moins tentant, tandis que là, le balancement, là, parfait.
Donc, okay, parfait.
Ça brasse.
Excellent. Bon, ben...
Encore un pouce?
Oui, un pouce.
Ça. Encore un pouce de M. Tuteau. Le mois des morts maintenant, il y a toutes sortes... ça commence toujours avec l'Halloween et puis on y est, mais on ne faut pas perdre de vue que c'est le mois des morts. Et ça a toujours été appelé comme ça. Moi, ça m'a toujours dit que ça me donne un peu parce que le mois de novembre, moi je l'ai dit, c'est peut-être le pire mois pour moi de l'année quand on commence à perdre la lumière un peu. Ouf. Puis comme ben des gens aussi. Puis je me suis dit, je vais poser la question aux boys. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Puis là, j'ai fouillé plein d'affaires. Et il y a aussi des façons de mourir. Enfin, si je vais commencer avec une note un peu souriante sur le mois des morts, il y a eu des gens qui sont morts de façon tellement incroyable. J'ai fouillé sur le web. Mais celui qui m'a le plus fait sourire dans toutes les façons de mourir, d'ailleurs, il y avait une série là-dessus, hein. J'ai des Six Feet Under, qui est une des grandes séries américaines que j'ai suivies. Et ça parlait de ça. Ça parlait toujours d'une façon spéciale de mourir. Et c'était la famille de croque-mort dont c'était l'histoire dans la série. Eh ben, ils avaient recevoir l'appel de quelqu'un qui était mort. Mais souvent, c'était des façons weird de mourir, mais souvent vérifié et vrai. Mais la plus drôle que j'ai sur laquelle j'ai accroché, c'est Frank Hayes, un jockey américain, qui le 4 juin 1923, à l'hippodrome de Belmont Park à Elmont dans l'État de New York, il est mort en 1923 d'un infarctus du myocarde durant une course hippique. Le cheval Sweet Kiss a gagné la compétition, faisant de Hayes le premier jockey mort à remporter une course.
Aïe, aïe,
écoute, aïe, aïe. Ça se peut pas. Tu dis, ben, voyons donc. Mais, je mets un peu de sourire parce que je veux passer la poque à Rémi qui, d'entrée de jeu, m'a dit, ah, moi, j'aime pas la mort. Mm. Alors, Rémi, ben, là, avec ce petit sourire-là, je pense pas que t'aimes plus la mort, mais raconte-moi que t'aimes pas la mort.
Non, j'aime vraiment pas ça parce que c'est comme, des phobies, toutes sortes de cas. Tu sais, pour ça que j'aime pas ça. Non, c'est vraiment, mais je me suis quand même dit, garde, je vais mourir, mais avant, je peux-tu faire, tu sais, une coupe d'affaires? Fait que je me suis amusé, tout le monde sait que j'aime le vocal, j'aime ça beaucoup. Fait que je me suis amusé à faire beaucoup, beaucoup de vocal.
Attends, Rémi, tu t'es dit, Alain propose de parler du mot de mort, la mort, et là, tu t'es dit, OK, je vais faire comme si j'ai mon bucket list. Ma dernière affaire que je veux faire avant de mourir, en plus que t'es déjà sur ton lit de mort cette semaine, on voit bien les draps. t'as dit, je vais faire la dernière affaire avant de mourir.
Pas la dernière affaire, mais non, je vais me gâter. Tu sais,
Te gâter.
J'aime ça le vocal, je vais me gâter, tu sais, parce que c'est pas la dernière affaire, j'espère, le Christy, wow, ça va faire. Non, ça. Fait que j'ai empilé des tracks de vocal et je me suis amusé vraiment beaucoup. Okay. Avec une pièce, j'ai dit, garde, j'aime beaucoup le vocal, j'aime beaucoup les dessins animés. Alors, j'ai joint la mort avec M. Lucky Luke, et puis on peut écouter...
avec plaisir.
La mort.
Le mois des morts. Il est croque-mort.
La mort.
Tiens-toi très, très loin de moi.
La mort.
Je n'aime pas.
Pas le mois des morts, il revient à chaque année. Il est plate, il me rentre dans le corps, j'ai hâte qu'il soit terminé. Les journées sont de plus en plus courtes, il n'y a rien à faire pantoute. Rien à faire qu'écouter la TV et puis de m'empiffrer.
Donne-moi des morts.
Wow, que c'est bon, Rémi. C'est vraiment, là, puis d'avoir choisi Lucky Luke comme ça, de ce côté-là, vraiment de, on sent toute l'âme du gars qui dit, moi, je vais m'éloigner, je veux pas vivre la mort. Mais en même temps, je veux dire, puis c'est une façon, hein, encore une fois, de d'exhorter un peu, de sortir de notre peur en le traitant de cette façon-là. Moi, c'est drôle, parce que je me rappelle une émission de télé où il y avait un croque-mort qui était venu, et moi aussi, j'ai toujours eu peur de la mort, je pense que c'est quelque chose qui est en nous, mais je me rappelle d'avoir reçu le croque-mort qui avait lancé un livre sur des situations cocasses, hein, pour amener un peu de sourire à travers ce rituel-là qui est un peu plate de funérailles et autres. Et moi, je me rappelle que j'avais fait, pour le recevoir en entrevue, j'ai dit, je veux m'asseoir, faire comme si j'étais mort dans un cercueil. OK, ça s'est flayé d'ailleurs. Je vais mettre cette photo-là sur le podcast pour qu'on puisse la voir. Mais c'était une façon, encore là, quand on en rit, ou quand on fait comme Rémi vient de faire, c'est une façon un peu de... Ouf, de dire on sort de ça. Puis le croque-mort avait raconté dans son bouquin, écoute, je vous conte une seule anecdote, plein d'anecdotes de gens, et celle que j'ai jamais perdue. Et il raconte qu'à un moment donné, en plein hiver, il y a des gens qui viennent près de l'endroit où il est, viennent chercher les cendres, OK? C'était en plein hiver, c'était glacé, la route. Et à un moment donné, là, ils s'engueulent un peu, le couple vient chercher les cendres, et bon, ils signent les papiers, ils pèlent le tout, et les gens partent, ils sont incapables de monter la côte. À un moment donné, il y en a un qui va dire, ça va faire. Il a mis un peu de cendre à terre. Et ça, toute ma vie, je vais me rappeler de cette anecdote-là, à quel point c'était capoté. Fred, on parle de ça parce que ça nous titille, hein, ça nous agace. Mais c'est pas partout pareil, la perception de la mort. Hein?
Non, mais c'est surtout aussi les funérailles sont vraiment différentes d'une partie à l'autre du monde, là, tout ça. Fait que j'en ai sorti quelques façons de faire qui me paraissaient intrigantes, voire intéressantes dans certains cas. Tu parlais de jazz tout à l'heure, Rémi. Hein? En Nouvelle-Orléans, donc les funérailles, ça se fête dans le jazz. Ça se célèbre dans le jazz. Donc quand les gens sortent de l'église pour aller porter le cercueil au cimetière, donc les gens accompagnent soit un orchestre de jazz, etc., le défunt jusqu'au cimetière en jazz. Donc moi ça me plaît beaucoup. Wow, ça j'aimerais ça.
Il y a d'ailleurs un James Bond qui se passe en Nouvelle-Orléans, qui est au début du James Bond. Ils recréent exactement cette...
Ah, wow!
Ça doit être là, vraiment trippant à faire. Je trouve ça intéressant. au Tibet, il y a l'enterrement céleste. Ça, c'est un petit peu plus macabre, mais ils montrent sur une montagne, puis ils mettent le cadavre sur une pierre, là, tu sais, puis les vautours viennent dévorer le cadavre. Donc, c'est un peu plus macabre, mais pour eux autres, donc, évidemment, le tout ce qui est la chair, etc., est pas important pour monter au ciel, là. Donc c'est très...
Il y a une réflexion intéressante là-dedans.
Il accorde moins d'importance donc au matériel, j'imagine.
Exact.
À Hong Kong, hein, vous savez que c'est une place extrêmement peuplée, donc des cimetières, il y en a pas là-bas. Donc ce que les gens se font incinérer, et puis garder les cendres, par contre, là, dans le salon, par exemple, c'est très mal vu, eux autres. Là. La proximité de la mort, là,
ils veulent pas.
Ils veulent pas avoir ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aménagé 13 jardins du souvenir. Donc, tu peux aller là, puis étendre les cendres du défunt. Ou, ce qui est encore plus prisé, c'est d'aller en mer, finalement. La mer est pas loin. Donc, mettre les cendres dans la mer. Et il y a évidemment aussi la crémation en Inde, là, à Varanasi. Vous avez sûrement déjà vu ça. En plus, à cette ville-là, là, les feux s'éteignent jamais. C'est 24 heures sur 24. Eux autres font brûler les cadavres sur ça. Ah oui, c'est
OK, ça veut dire qu'il y a un cadavre en amène un autre dans le sens.
Le feu
s'arrête jamais.
Non, ça s'arrête jamais, jamais.
Donc, comme quoi, la mort ne s'arrête jamais. Mais
ben, effectivement. Donc, il y a plusieurs manières. Nous autres, on est habitués ici à nos rites, mais il y a toutes sortes d'autres rites aussi, là, en Afrique, etc. Là, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver plein de manières, là.
Mais c'est fort intéressant, ça, Fred. Vraiment bon ce que tu as été capable d'aller nous chercher parce que ça vient un peu, je dirais presque dédramatiser ou de nous amener une lecture qui est un peu moins macabre.
Hein? Oui, effectivement. Je veux dire, ça dépend aussi des différentes croyances aussi, là, rattachées à tout ça. Mmh. Hein?
Exact. Bon, écoutez les boys, avant de donner la poc de la fin, d'abord bravo encore une fois. Je suis très content du travail qu'on a été capable d'accomplir en ce mois des morts. Hein. On est capable de célébrer et de faire des choses avec beaucoup de sourires, comme c'est notre habitude à Radio Luminol. On espère que ça vous a plu. Fred Desjardins, Rémi Tremblay et moi, Alain Dumas, on vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un autre podcast de Radio Luminol. Mais pour parler de la mort et pour terminer avec ceci, vous savez, les boys, que il y en a qui ont vécu la mort et qui sont revenus à la vie.
Ouais. Hein?
Vous avez déjà entendu ça. Évidemment, on doute-tu ou on doute pas de ça, vous autres, je sais pas.
C'est drôle parce qu'il y a le film, il y a Flatliner là, des années 90,
exact.
C'était ça, là, c'était des médecins, des jeunes médecins, ils se donnaient la mort puis
pour aller voir c'est quoi l'expérience.
Ouais, effectivement, puis ils se réanimaient après. Là.
Ouais.
C'est sûr qu'on... Ça dépend de chacun. Hein. Moi, j'ai tendance à vouloir croire qu'il y a quelque chose après. Mais en même temps, ça voudrait peut-être dire qu'il y avait quelque chose avant aussi. Là, on rentre dans des...
Une forme d'ésotérisme. Rémi, toi qui as peur de la mort, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose après?
J'espère beaucoup.
Ouais.
Parce que je regarde tous les grands penseurs de ce monde, les grands musiciens, les grands acteurs, les grands... Tu sais, tout, ça se perd. Tout après, c'est comme...
Ouais. Après, non, c'est ça.
J'espère quelque
chose. Est-ce qu'on a peur de la mort ou on a peur de souffrir pour mourir?
Écoute, je veux dire, on a peur de l'inconnu. Ça, je pense que c'est assez général. Là, tu veux dire, oui, on ne veut pas souffrir personne. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Là.
Ouais, c'est ça.
Mais veut aller au ciel. Mais il y a une chose qui est certaine. Il y en a qui ont vécu la mort, qui sont revenus à la vie. Et une de ces personnes ne l'avait jamais encore avoué aujourd'hui. Et cette personne-là, bien, nous en fait la mention. C'est là-dessus qu'on se quitte avec cette personne, surprise, qui a vécu la mort.
Ouais, j'ai connu la mort, oui, c'est vrai. Puis je peux en témoigner, puis un peu comme tout le monde, dans le fond, qui ont vécu ça, j'ai vu comme plein de lumière. C'est comme, c'est vrai, il y avait plein de Zirou CEO dans la face de moi. Là, la lumière est devenue de plus en plus intense. Puis là, j'avais l'impression de sortir de mon corps. Puis j'ai vu comme un tunnel. Ouais, un long tunnel. Puis là, hop, toi, t'as jamais. C'était le tunnel de la fontaine, t'as ma slack.
Radio Luminol, un regard coloré sur l'actualité.